Lire et délire.
Non, c'est trop timide.
Lire et délire, oh, c'est du délire, hein.
Lire et délire.
Vous n'êtes pas du tout synchro, hein.
Lire
et délire.
2, 3. Lire
et délire.
C'est pas bien.
Ouais, c'est pas mal.
Tu causes. Tu causes. Tu causes. Tu vas
t'entendre. Moi, je m'entends pas.
Hein?
Hein? Je vous remercie.
Le prochain départ, c'est pour quand?
Oui. Sacré vie, hein. Oui.
Non. T'avais fait le découpage?
Non.
Non, moi non plus.
Je trouve que ça grésille, c'est normal. C'est comme il y a de l'orage, il n'y a pas de danger constructif.
Les cheveux en pétard, les yeux rougis de sommeil. Calme-toi, Albertine.
Oui. Alors,
ça va.
Non, mais ça ne me gêne pas trop, j'entends ma voix.
Sa mère.
C'est une belle voix, je me
dis. Voilà.
C'est mon lien à moi, en fait.
Lire.
Et délire.
Lire.
Et délire.
C'est pas bien.
Ouais, c'est pas mal.
Le fantôme du manoir. Un manoir occupé par un fantôme s'est levé loin de toute habitation. Un jour, un promeneur s'aventura jusque-là. Il jugea la bâtisse lugubre, mais il tomba en admiration devant le paysage. L'homme était riche. Il acheta le manoir pour le démolir et construire à la place une demeure plus accueillante. Les travaux commencèrent. « En premier, dit l'homme, il faut raser cette horreur. » Du doigt, il montrait le manoir. Les moteurs des bulldozers vrombirent.
Horace, le fantôme, s'enfuit sous une pluie de gravats. À la tombée de la nuit, il atteignit un village. Par une fenêtre éclairée, il vit un couple et ses enfants autour d'une table. Il eut envie de se joindre à eux. Il frappa à la porte.
La mère ouvrit un bébé dans ses bras. Elle pâlit, poussa un cri et claqua la porte.
Horace se dirigea vers la maison d'à côté.
Son propriétaire eut la même réaction que sa voisine.
Le fantôme passa la nuit seul, dans une grange. Les jours suivants, il dut se rendre à l'évidence. En le voyant, hommes et femmes, jeunes et vieux, grimaçaient d'effroi et hurlaient avant de s'enfuir en courant. Le fantôme prit l'habitude de se déplacer la nuit, quand tout était désert. Dans une ville, il se réfugia dans le pavillon abandonné d'un parc. À travers les carreaux sales, il regardait les promeneurs. Horace mourait d'envie d'arpenter les allées avec eux. Hélas, il devinait quelle serait leur réaction. Un soir, Horace ramassa un journal oublié sur un banc. Dans la rubrique « Offre d'emploi », il lut qu'on recherchait un fantôme. Le jour suivant, il se rendit à l'adresse indiquée.
La femme qui lui ouvrit eut un large sourire. « Magnifique ! » s'exclama-t-elle. « Vous êtes magnifique !»
Horace se sentit rougir.
« Mais où avez-vous déniché ce déguisement ?»
Le fantôme bredouilla que ce n'était pas un déguisement.
La femme lui fit un clin d'œil. « Petit malin, vous préférez garder le secret ?» Elle lui tendit un papier. Rendez-vous demain à cette adresse. Vous allez attirer du monde.
Horace bégaya que d'habitude, il faisait plutôt fuir les gens.
La femme eut un gloussement ravi. Oh, en plus, vous êtes drôle. Je me réjouis de travailler avec vous.
Le lendemain, Horace retrouva la femme dans une fête foraine. Il écouta ses explications, puis monta dans un wagon du train fantôme. Il fit une constatation étonnante. Hommes ou femmes, jeunes ou vieux, hurlaient de peur en le voyant. Mais ils ne s'enfuyaient pas, car ils avaient acheté un ticket pour cela.
Le terrible monstre du placard. Le soir, avant de se coucher, Albertine inspectait chaque recoin de sa chambre. Elle farfouillait dans les tiroirs, retournait vieux papiers, regardait sous le lit avec sa lampe torche et remuait les gros rideaux de velours. Quand elle était absolument certaine qu'aucun monstre ne s'y était dissimulé, elle s'installait dans son lit et remontait sa couette jusqu'aux oreilles. Puis, elle s'endormait paisiblement et faisait des rêves aussi doux que son oreiller. Mais cette nuit-là, elle se réveilla brusquement avec le sentiment étrange de ne pas être seule dans la pièce. Elle balaya sa chambre du regard. La porte de son armoire était entrouverte et semblait bouger. Albertine se frotta les yeux. Quelque chose s'agitait dans la penderie. La fillette hésita à se lever pour en avoir le cœur net. Elle renonça et préféra appeler sa mère en hurlant aussi fort qu'elle le put. « Maman ! Il y a un monstre caché dans mon placard !»
Celle-ci déboula, les cheveux en pétard et les yeux rougis de sommeil. « Calme-toi, Albertine ! Tu sais bien que les monstres n'existent pas !»
La fillette s'obstina. « Je ne me recoucherai pas tant que tu n'auras pas vérifié !»
Sa mère ouvrit la porte en grand, secoua les vêtements et sourit. « Tu vois, il n'y a rien, ma chérie !»
Albertine n'était pas plus rassurée. « Regarde dans chaque coin, il est peut-être caché au fond du placard !»
Sa mère se baissa, souleva les chaussures posées sur l'étagère du bas et se retourna vers sa fille. « Tu vois ?» Elle ne termina pas sa phrase. Elle poussa un cri tonitruant et sauta sur le lit d'Albertine.
Celle-ci s'enfonça dans sa couette et demanda du bout des lèvres « Tu l'as vu ?»«
Il est passé sur mon pied !»«
C'est un petit monstre ?» demanda la petite.
« Il est poilu et il court vite !» Sa maman attrapa la lampe torche et parcourut la pièce. Elle chercha longuement. Son cœur battait la chamade.
« Peut-être qu'il s'est volatilisé ? Qu'il peut devenir invisible ?» suggéra Albertine.
Sa mère s'approcha d'une commode. Une ombre était tapie derrière. Dans un sursaut de courage, elle poussa le meuble et tomba nez à nez avec la créature. Elle hurla de plus belle. « Ah !»
Albertine se recroquevilla dans son lit.
« C'est une souris !» vociféra sa mère.
Alors, l'enfant sortit la tête de sa couette et demanda « Une souris ?»«
Oui, c'est horrible !»
Mais « enfin, c'est n'importe quoi. Tu as peur d'une misérable souris ?» Albertine attrapa la lampe torche et chercha l'animal. Quand elle le tint dans le creux de sa main, elle le déposa dehors, sur le bord de sa fenêtre. « Et maintenant, si tu pouvais retourner dans ta chambre un moment, ce serait bien. Je voudrais bien dormir. »
Les habits du dimanche, texte de François Morel. Ma sœur est en blanc, ma mère est en larmes. Mon frère, en pantalon à pattes d'éléphant. Mon père est inquiet pour ma sœur, en blanc. Mon frère est en sueur, en garçon d'honneur. Ma mère serre les dents. Mon père est tout blanc. C'est la fête. Tout un tas d'épicières et de dentistes, de prévières et de crucifix regardent ma sœur qui ne regarde rien.
Marline Verblanchot, acceptez-vous ?
Elle tourne la tête. Un instant, ses yeux ont croisé les miens. J'essaye de retenir son regard. Riline, petite Riline, grande sœur, te souviens-tu des jours de pluie, de nos semaines des quatre jeudis, de nos après-midi au lit ? De la photo de Tino Rossi. Riline, te souviens-tu de ces crayons de bois que nous fumions à deux et dont le père de tes enfants futurs ne connaîtra jamais la saveur douce et fictive ?
Marilyn Verblanchot, Acceptez-vous de prendre pour époux ?
Riline, je t'aimais. Je t'aime encore. Et tu t'en vas de ma vie. Et tu t'en vas de notre enfance. Et tu t'en vas et ton regard déjà m'échappe. Le maire rajuste son écharpe. Ce fut une belle cérémonie. Mon beau-frère s'appelle Gérard.
Je vais vous lire un texte de Jacques Gamblin. Tout le monde connaît Jacques Gamblin, l'acteur de cinéma, acteur de théâtre aussi. Et tout le monde sait, ou peut-être moins de monde sait, qu'il est originaire de Granville. Et il y a plusieurs années, il a écrit un texte sur la météo, le temps qu'il fait chez nous en Normandie. Et il l'a intitulé « Mon pays, c'est dehors ». Je vais donc vous lire ce texte. Dehors. Je veux être dehors. Tout est bon ici. Tout est vivant. Il n'y a rien à jeter. Ni la météo, ni les marées, ni le vent de Suroît. Ici, le grain, la dépression, même le ciel de traîne arrivent en premier. On est servi, en tête. Ici, on invente la météo. Le temps qu'il fait aujourd'hui ici est le temps qu'il fera demain ailleurs. On goûte les plats d'abord avant de les servir à l'autre bout de la France et de l'Europe tout entière. L'occidental du Cotentin a les doigts crochus, mais il est généreux. Il distribue la météo à ceux qui n'en ont pas. Et quand l'oriental alsacien allume sa télévision pour le 20h, il ne regarde pas le temps qu'il fait chez lui. Il regarde le temps qu'il fait chez nous pour savoir celui qu'il fera demain et après-demain chez lui. Parce qu'ici, le ciel va plus vite qu'ailleurs. Il ne laisse pas de traces. Il est suivi de près par un autre ciel. Le ciel est poussé par le ciel ici. C'est la course des ciels. C'est la file indienne, les joies de l'exubérance et de l'adaptation. Tu as pensé planche à voile ? Tu feras une bonne marche à pied. Tu as enfilé les chaussettes de laine et hop, tu transpires en maillot de bain. Même les grands chercheurs n'arrivent pas à nous suivre. Hier encore, ils avaient annoncé pluie et tempête pour le jeudi. On a eu tout ça le mercredi dans la nuit. Et le jeudi, au réveil, on s'est levé les bras grands ouverts vers un ciel nettoyé de la tête aux pieds. Le jeudi était à nous. Le jeudi était cadeau. Ici, ça bouge, ça s'envole, ça fuit, ça foule le camp, ça défoule, ça renverse, ça explose et ça gueule. C'est entier, sans entourloupe, c'est du vrai. Ça a traversé tout un océan pour sculpter la pierre, inventer les reliefs et les caractères. Ici, la mer vient de si loin, tu la prends comme elle est, déchaînée, plate, verte ou verte et bleue, frissonnée, frémissante, marronasse ou bleue. Et bleu. Tu la regardes, tu te retournes vers la campagne et tu aperçois le pommier en fleurs. Tu te retournes vers le large et c'est le désert qui te parle, le sable mordoré qui te brouille la vue. Et tu es riche comme Crésus avec tout cet or dans les yeux. Prends ce que le pays, la pomme, sa fleur, le caillou, le trou d'eau, la falaise, la vague, son écume et le coquillage te donne pour t'inviter à bras le corps au grand banquet des éléments. Ça va danser au pays de grandes surfaces et de grand air. C'est ici, c'est maintenant, ça va danser au pays du dehors. Revenir comme si je n'étais jamais parti. Être là, être deux là, être deux quelque part. Et tous les mains de ma vie dire merci au hasard d'être né ici.
Lire et délire.
Là. C'est trop timide.
Lire et délire, c'est du délire, hein.
Lire et délire.
Vous n'êtes pas du tout synchro, hein.
Lire.
Et délire.
Deux, trois. Lire.
Et délire.
C'est pas bien.
Ouais, c'est pas mal.
Tu causes. Tu vas
t'entendre. Moi, je m'entends pas.
Hein?
Hein? Je vous remercie.
Le prochain départ, c'est pour quand?
Oui. Sacré vie, hein.
Non. T'avais fait le découpage?
Non. Non, moi non plus.
Je trouve que ça grésille, c'est normal.
Comme il y a de l'orage, il n'y a pas de danger constructif. les cheveux en pétard, les yeux rougis de sommeil. Calme-toi, Albertine.
Oui. Alors, tata.
Non, mais ça me gêne pas trop, j'entends ma voix.
Sa mère.
C'est une belle voix, je me
dis. Voilà.
C'est mon lien à moi, en fait.
Lire. Et délire.
Lire.
Et délire.
C'est pas bien.
Ouais, c'est pas mal.